France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la réalité fait-elle encore le poids ? Dans son roman 1984, publié en 1949, George Orwell donnait une description implacable d'un monde où la vérité devient impossible à formuler. Ce n'est pas que le personnel politique de ces régimes est l'apanage du mensonge. Non, dans l'univers décrit par Orwell, c'est la distinction même entre vérité et fiction que le langage ne parvient plus à exprimer. La langue est tellement trafiquée que le réel devient indicible, de sorte que tout se passe comme s'il n'avait plus aucune importance. Ou, pour le dire avec les mots de notre invité, dans ce monde, on dévitalise les obstacles que le réel nous oppose en travestissant idéologiquement les signes de son existence. Fin de citation. Mais avec Donald Trump notamment, il semble qu'on ait fait en la matière un saut quantique, qu'on soit entré dans une dystopie si radicale qu'elle ravale Orwell au rang de petit joueur. On s'attend même à ce que le président américain puisse bientôt proclamer que la Terre est plate, au moins par endroits, si cela pouvait lui profiter d'une façon ou d'une autre. La réalité serait-elle en train de perdre une grosse partie de son poids ? L'heure est en tout cas venue de réfléchir sérieusement au sens caché de cet anagramme découverte par Olivier Garcia. La dévalorisation du réel contient exactement les mêmes lettres que, tenez-vous bien, trouvaille de la déraison. La dévalorisation du réel serait-elle donc l'ultime trouvaille de la déraison ? Cet anagramme, comme toutes les autres, a beau relever du hasard le plus pur, on ne peut s'empêcher d'y voir comme un signe. La question est, lequel ? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Gérald Bonheur. Bonjour.
Bonjour Étienne Klein.
Vous êtes professeur de sociologie à la Sorbonne et vous venez de faire paraître aux éditions des PUF un livre dont on parle beaucoup qui s'intitule « À l'assaut du réel ». Et vous commencez à parler de mai 68. Vous étiez né en mai 68 ?
Non, un an près. Pas du tout, mais c'est un événement comme beaucoup de Français qui m'a marqué d'un point de vue imaginaire. Et j'imagine, parce que je ne peux pas faire autrement, que j'aurais peut-être participé à ces manifestations qui réclamaient plus de liberté et moins de corsetage moral de la société qu'on appelait bourgeoise à l'époque.
Alors vous donnez quelques exemples de slogans bien connus. Il est interdit d'interdire, qu'on voyait sur les murs à l'époque. Soyons réalistes, exigeons l'impossible. Le rêve est la réalité. Prenons nos désirs pour des réalités, etc. De quoi était-ce le signe ? Ou plutôt, qu'est-ce que ces slogans disaient ou annonçaient de notre rapport à la réalité ?
Je crois qu'ils annonçaient la coexistence de deux mondes. Et c'est pour ça que ça me paraît intéressant, cet événement. D'abord, le premier monde que nous connaissons, et c'est ce qu'on dit généralement de mai 68, et on a raison de le dire, c'est un mouvement social, collectif, politique, qui a obtenu d'ailleurs, qui a revendiqué et obtenu un certain nombre de choses, mais qui n'a pas abouti à l'essentiel de ce qu'il désirait, c'est-à-dire changer le monde, changer la vie, et la plier en quelque sorte au désir des individus. Et il y avait donc un passager clandestin, c'est notamment ces slogans qui l'indiquent, dont un certain nombre ont été pensés par le mouvement situationniste, qui est un des mouvements les plus bizarres qu'on puisse trouver au XXe siècle. D'abord un mouvement artistique apolitique au départ, puis qui s'est politisé, et qui avait mis au cœur de ses revendications la notion de subjectivité radicale, qui exprime déjà la volonté de plier le désir à sa volonté, donc qui se traduit bien dans les slogans que vous avez rappelés, donc je ne vais pas les rappeler de nouveau, mais cette volonté d'exiger tout du monde. Et je comprends cette exaltation, sauf qu'à cette époque-là, c'était une volonté collective. On regardait encore collectivement vers l'avenir, il y avait encore le mythe du progrès qui était très fort, mais cela annonçait déjà une nouvelle forme d'aventure, quand on cesse de croire collectivement, par exemple, au progrès et à l'avenir, une aventure qui porte le regard sur soi-même, l'aventure de l'individu, de ses frontières, qui suis-je ? Et c'est pour ça que ces slogans, effectivement, se sont transmués dans les décennies suivantes en slogans publicitaires. En tout cas, ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à des slogans publicitaires.
Gérald Bonheur, j'imagine qu'on ne sait pas qui a inventé ces slogans, ils ne sont pas signés. Sauf un, vous dites que « Sous les pavés la plage » a été écrit par un monsieur qui s'appelle Bernard Cousin, et qui a écrit un livre dans lequel il raconte son parcours, livre que je n'ai pas lu, mais que vous avez, vous, parcouru. Quelle est son explication ?
Alors, en fait, il faut savoir qu'un certain nombre de ces slogans étaient tout simplement créés dans l'école des Beaux-Arts, vous savez, qui donne sur la scène, et on en a produit beaucoup. L'histoire, comme d'habitude, en a retenu peu, mais elle a retenu les plus spectaculaires. Alors, l'histoire de Bernard Cousin est intéressante. Il revendique, en effet, le slogan « Sous les pavés, la plage ». Je suis pas historien pour vérifier la véracité, mais ce qui m'intéresse le plus dans son parcours, c'est ce qu'il est devenu. « Sous les pavés, la plage », quelqu'un qui écrit ça, on peut se demander quel va être son destin. Et son destin, qui est tout à fait honorable d'ailleurs, n'était sans doute pas celui qu'il imaginait, n'est-ce pas, quand il a écrit Sous les pavés la plage. Il est devenu médecin de campagne, ce qui est tout à fait honorable encore une fois, et adjoint au maire à la voirie dans une petite ville de France.
Il s'occupe des pavés.
Alors justement, il y a, ça rappelle un petit peu le slogan, mais surtout je me dis que c'est en accélérer en quelque sorte l'histoire de l'utopie. J'aime beaucoup l'histoire de l'utopie, j'aime beaucoup les rêves un peu brisés, la déception. Je ferais bien un jour une sociologie de la déception, et son parcours à lui me paraît tout à fait illustratif de ça, c'est-à-dire de grands espoirs, une vie qui n'est pas du tout ratée, mais qui quand même chute un peu plus bas que ce qu'on imaginait.
La différence entre vous et moi, enfin une des différences, Gérald Bonheur, c'est que moi j'étais né en 1968, et je me souviens de deux slogans qui m'avaient marqué. Le premier, c'était « Déboutonner votre cerveau aussi souvent que votre braguette ». Oui. Ce qui pouvait sonner comme un éloge de l'esprit d'ouverture cher à France Culture, ou bien comme une promotion intellectuelle un peu désespérée des déboires prostatiques. Et puis le deuxième, c'était, peut-être qu'il va vous inspirer, « Bannissons les applaudissements car le spectacle est partout ».
Ah ben là, c'est tout à fait situationniste. Hein. Je vous rappelle que la Société du spectacle de Guy Debord, c'est précisément un des manifestes du situationnisme. Quant au premier, il est tout à fait intéressant aussi, puisqu'il s'agit bien d'inciter à la dérégulation du désir, c'est-à-dire d'indexer l'imagination sur le désir libidineux, en l'occurrence. Et c'est bien ça tout le sujet de mon livre, d'ailleurs. C'est cette dérégulation du désir, c'est-à-dire la volonté, ce qu'on appelle en anthropologie la wishful thinking, la volonté de plier le réel à son vouloir.
Donc c'est le prélude, dites-vous, de la pensée désirante, et vous ajoutez « Nous sommes alors passés d'un désir de désaliénation collective à l'aspiration individualisée à un monde qui se plierait à notre désir. » Vous faites des longues phrases, je rappelle.
Je fais des longues phrases que j'espère compréhensibles.
C'est le cas.
Puisque j'écris pour le plus grand nombre, en fait, c'est une de mes préoccupations. Mais en effet, c'est d'ailleurs conjoint, vous voyez, qui est quelques années plus tard, vous allez avoir un événement, un phénomène qui va se traduire par des best-sellers invraisemblables, des millions de livres, des cours, des groupes de réflexion autour du développement personnel. Et le développement personnel, c'est un des symptômes, pas le seul, de notre obsession pour cette question, qui suis-je ? Et surtout, qu'est-ce qui m'a empêché dans mon environnement de devenir celui que ou celle que j'aurais dû devenir ? C'est-à-dire cette obsession d'avoir été contrarié dans son développement personnel par un environnement qu'on va souvent considérer comme toxique. Et une de nos grandes quêtes, c'est de savoir quels sont les paramètres de toxicité dans notre environnement, voilà, qui m'ont empêché de déployer mes ailes.
Alors en vous lisant, j'ai pensé à Maurice Blanchot. Je ne sais pas s'il était situationniste, mais il dit ceci.
Je ne crois pas qu'il l'était, non.
S'affirmer, ce n'est pas nécessairement mettre plus de jeu dans le monde, c'est aussi chercher à ne mettre personne là où il y a jeu.
Oui, alors,
un peu de ça, non?
Il y a un peu de ça. D'ailleurs, c'est une chaussette qui peut se retourner. C'est-à-dire que le grand mouvement qu'on observe, c'est soit de rapporter l'intégralité de l'univers à son ego, c'est-à-dire qu'on va vouloir plier, y compris les catégories qui nous servent à penser le monde, à notre ressenti. Ça, c'est une première chose. J'étudie beaucoup de communautés. En fait, il y a beaucoup d'exemples dans ce livre, des centaines d'exemples, en fait. Ou l'autre possibilité, c'est de projeter mon ego dans l'intégralité de l'univers. Et par exemple, c'est une des rêveries qui s'accommode très bien du transhumanisme. Hein. Les transhumanistes veulent dépasser la situation biologique du corps humain parce que celui-ci est trop mou, hein, il est flasque, disent-ils. Et comme ils espèrent conquérir l'univers, c'est pas vous que je vais l'apprendre, la question de la limite de la vitesse de la lumière qui est indépassable et qui fait que si on voulait conquérir des planètes lointaines, il nous faudrait un temps très long, des milliers d'années.
Une grande patience.
Dans certains cas, voilà. Et donc le corps biologique ne s'accommode pas de ces rêveries. Donc pourquoi ne pas télécharger notre conscience dans du silicium, dans des nanorobots qui vont envahir l'univers? Oui, ça fait partie de ces communautés que je regarde sans me moquer d'ailleurs, mais j'essaie de comprendre comment il est possible qu'on en soit arrivé là.
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Hannah Arendt, d'une certaine façon, a annoncé mai 68 Je la cite, c'est vous qui la citez dans votre livre. « L'homme moderne a fini par en vouloir à tout ce qui est donné, même à sa propre existence, à en vouloir au fait même qu'il n'est pas son propre créateur, ni celui de l'univers. Dans ce ressentiment fondamental, il refuse de percevoir rime ni raison dans le monde donné. Toutes les lois simplement données à lui suscitent son ressentiment. Il pense ouvertement que tout est permis et croit secrètement que tout est possible. »
Oui, alors je ne dirais pas qu'elle a anticipé mai 68, je dirais même plus loin, elle a d'une certaine façon anticipé la situation de post-réalité que j'essaie de décrire dans ce livre, c'est-à-dire effectivement contester toutes les frontières, et nous sommes, disons aujourd'hui, car la question de la pensée désirante, elle traverse toute l'histoire de l'humanité. J'inaugure le livre sur une réflexion autour de l'épopée de Gilgamesh, qui est un des plus vieux textes de l'humanité, qui raconte justement l'histoire de Gilgamesh qui veut dépasser la mort, qui veut tuer la mort. C'est marrant, c'est un slogan qu'on retrouve aussi chez les transhumanistes. Tuer la mort, dépasser les limites biologiques de notre corps. Donc cette prétention, elle traverse évidemment toute l'humanité, et tant mieux, car sans cette prétention à plier le réel, nous n'aurions peut-être pas taillé des silex, tout simplement. Donc toute notre technologie, la science d'une certaine façon, mais aussi la magie, la superstition, c'est-à-dire nos représentations du monde, sont souvent inspirées de notre pensée désirante. Seulement voilà, dans le monde contemporain, cet invariant de la pensée humaine qui est cette wishful thinking, eh bien, elle s'hybride, elle se conjugue avec un contexte technologique et, disons, narratif idéologique qui est tout à fait inédit, lui. Et ce qui apporte cette société dont je pense qu'on peut dire qu'elle devient une société de post-réalité et en effet qu'avait déjà bien décrit d'une certaine façon Hannah Arendt.
Alors vous citez dans ce livre beaucoup d'exemples, beaucoup d'auteurs aussi du passé, notamment un de vos grands prédécesseurs en sociologie, Émile Durkheim, qui a mis en évidence à son époque un certain nombre de paradoxes, notamment que tout changement social brusque est mortifère, même lorsqu'il conduit à une amélioration des conditions de vie. Mortifère au sens où il augmente le taux de suicide.
Absolument.
Comment est-ce que ça s'explique, ça?
Ça c'est effectivement un des...
C'est un constat, c'est une corrélation.
Absolument.
Et comment est-ce qu'on en fait une causalité?
Eh bien, en fait, on en fait une causalité paradoxalement, là, pour Émile Durkheim, c'est un de ses grands livres, hein, Le suicide, c'est un chef-d'œuvre. En l'occurrence, paradoxalement, j'allais dire, parce qu'il faut convoquer les intentionnalités individuelles. Ce que n'aimait pas, je ne veux pas faire d'épistémologie des sciences sociales, mais ce que ne proposait pas vraiment Émile Durkheim dans les règles de la méthode sociologique, par exemple. Mais il se trouve que, confronté à ce paradoxe, en effet, comment se fait-il que les courants suicidogènes, pour parler comme lui, augmentent, y compris dans des périodes de prospérité? Eh bien, en fait, quand il y a une désindexation du désir sur le possible. En d'autres termes, quand le contexte du présent nous pousse à espérer trop, et quand le futur nous déçoit dans ses espérances, il y a un écart que Durkheim appelle la dérégulation du désir, c'est pour ça que je reprends ce terme, et que des sociologues postérieurs comme Tedger ont appelé la frustration relative. C'est-à-dire l'écart entre ce que le présent me donne et ce que je croyais pouvoir espérer.
C'est-à-dire que l'amélioration nous donne trop d'espoir.
Voilà, parce que nous avons tendance à anticiper selon une tangente, selon une linéaire.
Une extrapolation.
Présent, voilà, et si le présent accélère moins que nous ne pensions, ou par exemple qu'il y a une brusque interruption, eh bien il peut se passer, alors éventuellement des courants suicidogènes, dirait Durkheim, mais aussi des protestations sociales, puisque Tedger a écrit un livre qui s'appelle « Why Men Rebel ?»« Pourquoi les hommes se rebellent-ils » Et il a poursuivi en cela, par exemple, les réflexions de Tocqueville, qui expliquait la Révolution française exactement de la même façon. Il disait qu'il y avait une période de grande prospérité, puis de brusque crise, et évidemment, ça crée une désindexation des espoirs, et donc une frustration qui est très importante.
Alors avec les thèses dans la tête de Tocqueville et de Durkheim, qu'est-ce que vous diriez de notre époque? Est-ce qu'elle est suicidogène?
D'abord, oui, surtout elle est surtout dépressive, notre époque. Ce que disent les psychiatres aujourd'hui, c'est qu'il y a des épidémies de dépression, 300 millions dans le monde, et la dépression, je parle un peu comme les psychiatres, j'espère ne pas dire de bêtises, elle est caractérisée par ce qu'on appelle l'anhédonie, c'est-à-dire non pas la tristesse, mais l'absence de désir. L'anhédonie, c'est l'absence de désir. Donc la dépression est aussi un symptôme du reflux de l'expression de la pensée désirante. Quand celle-ci ne peut pas rencontrer le réel en quelque sorte, eh bien, elle reflue sous forme potentiellement de dépression, ou elle peut prendre d'autres formes que je décris dans le livre, puisqu'en fait, il y a quatre grandes stratégies d'assaut au réel. Mais une de ces stratégies, c'est le contournement du réel. Donc, il y a des individus qui, ne se sentant plus capables d'affronter le réel, eh bien, vont essayer de le contourner. Par exemple, c'est le cas des hikikomori au Japon. Hein, ça se passe à la fin des années 80, début des années 90, au moment où le Japon traverse une crise économique terrible, ce qui est inédit pour ce pays à ce moment-là, et où aussi il y a des injonctions scolaires très fortes. C'est-à-dire que les jeunes garçons, parce que ça concerne surtout les garçons, cette communauté, eh bien, sentent une pression sur leurs épaules à laquelle ils ne peuvent répondre.
Donc ils restent chez eux.
Voilà, ils rentrent chez eux, dans leur chambre, et ils n'en ressortent plus pendant des mois, des années, voire des décennies, pour ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils rentrent dans une ritualisation. C'est-à-dire qu'ils font exactement les mêmes choses à la même heure, ils demandent à manger à la même heure.
Il y a quand même des parents ou des proches qui les nourrissent.
Oui. Et les parents les nourrissent, mais ils sont tyrannisés généralement par les hikikomori qui deviennent de plus en plus exigeants, tout simplement parce qu'ils veulent en fait reproduire un présent éternel. C'est-à-dire ce qui les abîme, c'est l'incertitude, c'est-à-dire l'ouverture du champ des possibles que représente le futur. Une bonne façon, une bonne technique psychosociologique en quelque sorte, c'est de ritualiser son monde pour que chaque jour ressemble au présent tout simplement et qu'il n'y ait plus d'incertitude.
Ni de surprise. Ouais. Vous dites aussi, Gérald Bonheur, que nous sommes des singes, mais pas comme les autres, notamment par notre capacité à prendre nos désirs pour la réalité, vous venez d'en parler, qui nous distingue des autres espèces. Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Est-ce qu'on est sûr que les singes, je pense aux bonobos ou à d'autres, n'ont pas quelque part un imaginaire qui leur fait penser le monde tel qu'il pourrait être?
Avant de pouvoir imaginer le monde tel qu'il pourrait être, il faut s'assurer que nous avons une cognition qui peut percevoir les probabilités et l'existence potentielle de statistiques. Alors, c'est le cas pour les êtres humains. On sait qu'il y a 8 mois, hein, il y a des papiers que je cite, un bébé par exemple, à qui on montre une urne qui est opaque, et dans laquelle on va tirer des boules, et par exemple que sur 10 boules, il y a 8 boules rouges. Et donc s'il n'avait pas de théorie statistique, il ne s'attendrait pas à une constitution de l'urne. Or, on enlève le cache de l'urne, et il peut voir la constitution de cette urne, et dans certains cas, alors qu'il y a 8 boules rouges qui sont sorties, ce sont quasiment que des boules rouges, mais dans un autre cas, ce sont que des boules blanches, qui est beaucoup plus surprenant. Et on voit que les bébés sont surpris, de là qu'on en infère, qu'ils ont des formes de modèles mentaux bayésiens en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils sont capables.
C'est pas le cas des bébés singes.
Alors c'est pas le cas des bébés singes et c'est le cas de certaines espèces comme les corbeaux et en effet certains singes sont capables de percevoir les probabilités, mais en revanche cette perception elle est beaucoup plus fruste que chez les êtres humains et par ailleurs les êtres humains sont les seuls à avoir imaginé des mondes alternatifs. Par exemple, je ne connais pas de bonobos, parce qu'ils n'ont pas d'écriture, qui imaginent l'existence d'un paradis primordial avant l'existence du monde. Or, nous, les êtres humains, à peu près dans toutes les mythologies, très souvent, nous avons imaginé qu'au début des temps, il y avait un monde qui ressemblait à celui des hikikomori. C'est-à-dire un monde où demain ressemblait à aujourd'hui, qui ressemblait à hier. Il n'y avait absolument aucune incertitude, sauf que sous l'imagination de la plume de ceux qui l'ont écrit, c'était un paradis. Alors que quand on regarde la vie des hikikomori, on s'aperçoit qu'un monde sans incertitude, ça peut être aussi un peu un enfer.
Les lois de nos désirs sont des dés sans loisirs, disait Robert Desnos. Alors vous parlez d'un événement que j'ignorais, qui s'est passé dans les faubourgs de Falaise, en Normandie, en 1386. Vous racontez la scène, et moi je l'ai lu en pensant qu'il s'agissait d'une femme, d'une jeune fille, qui était condamnée à mort.
Une truie.
Et en fait, c'était une truie. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans l'esprit des gens de cette époque pour imaginer que une truie pouvait être condamnée à mort et que son exécution servirait de leçon? Oui. Pour les autres membres de son espèce.
Oui, parce que le juge avait en plus enjoint les
paysans.
9 jours
de procès.
Voilà, et 9 jours de procès, il y avait un avocat de la défense et il a enjoint à les paysans à venir avec leur porc et leur truie pour que ça édifie leur esprit. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'esprit, c'est difficile de dire. Mais il y avait des jugements, on le sait, des jugements d'animaux. D'ailleurs, c'est pas une exception. Il y en a eu un certain nombre. Ça voulait dire que on considérait que les animaux pouvaient avoir une responsabilité morale. C'est-à-dire qu'on n'était pas encore très au clair sur les frontières qui séparent certains animaux, c'est-à-dire nous, hein, les singes magiciens, les singes nus en quelque sorte, du reste du monde animal. Alors évidemment, tout ça nous paraît très étrange et assez cruel, il faut bien le dire. Bon, cette truie, elle avait dévoré un enfant, en fait, le jour de Noël, d'ailleurs.
Parce qu'elle circulait librement dans
les villages. Parce qu'elle circulait librement, parce que les porcs servaient beaucoup à faire le ménage, en fait, dans les rues. Hein, ils mangeaient à peu près tout, et parfois, malheureusement, ils mangeaient aussi des êtres humains.
Vous dites, Gérald Bonheur, nous avons accès, nous, les humains, à des mondes mentaux qui sont hors de portée du reste du monde animal. Est-ce que ça veut dire qu'un animal n'est pas capable de délirer sur son réel ?
Le problème, c'est qu'il est très difficile d'accéder au monde mental des animaux par le fait qu'ils n'ont pas de langage articulé que nous pourrions décrypter. Donc je ne veux pas spéculer, mais par exemple, on sait que à quoi peut rêver un chat, par exemple. On le sait parce que en faisant une opération particulière, l'inhibition du corps qui se présente dans le sommeil, eh bien, peut être levée, et donc on peut le voir bouger en tant qu'il rêve. Et il rêve de quoi ? Ben, il rêve de chasser des souris, de manger, c'est-à-dire de choses, je dirais, relativement routinières. Nous sommes, à ma connaissance, les seuls êtres à avoir essayé de transformer le plomb en or, par exemple, à imaginer la fin des temps, à imaginer des utopies politiques, par exemple, à imaginer une organisation du monde qui puisse être contestée. Que je sache, il y a des animaux qui vivent en société, il y a des fourmilières, etc., mais ils n'ont jamais changé de régime politique, par exemple. Bien, tout ça, c'est notre imaginaire, et je pense que c'est quand même une spécificité humaine, oui.
Gérald Bonheur, votre livre s'intitule « À l'assaut du réel ». Je l'ai lu entièrement, et je ne crois pas que vous donniez une définition du réel. Notamment, vous n'éclairez pas le lien qu'il y a ou qu'il n'y a pas entre le réel et la vérité. Parce que le réel, on peut dire qu'il est toujours là, il dit toujours oui quand on l'interroge, il y a toujours du réel qui est là. Et parfois, le réel dit non. Non, vous vous trompez. Non, ça se passe pas comme ça. Non, ça n'a pas eu lieu.
Ben, c'est ça. En fait, j'ai parcouru, évidemment, j'ai parcouru la philosophie pour savoir s'il était possible de trouver comme forme de consensus. Et je n'en ai pas trouvé. C'est peut-être parce que je suis pas assez cultivé. Mais évidemment que la question du réel occupe à peu près tous les philosophes. Jusqu'à ceux qui nient son existence, comme Berkeley, par exemple, et on trouve toutes sortes de positions. Ceux qui la remettent en doute provisoirement jusqu'à la reconstruire, comme Descartes, par exemple, qui le fait de façon magnifique, dans, par exemple, dans les méditations métaphysiques. Mais ce qui m'a paru intéressant, c'est qu'il y a tout de même un consensus sur un point, c'est que le réel, c'est ce qui rend les coups. C'est ce que dit Richard Dawkins, par exemple, le réel rend les coups. Et je me suis dit que c'est ce qui m'intéressait surtout en tant que sociologue. Ce n'était pas tant la définition du réel,
il peut dire non,
que la façon dont nous concevons, dont nous percevons parfois son existence, quand on s'y cogne, tout simplement. Et surtout, c'est ça qui est le plus intéressant pour le sociologue que je suis, la façon dont on refuse aujourd'hui, de plus en plus fréquemment, d'entendre le non qui l'oppose à l'expression de notre désir. Comment s'organise ce contournement de ce non ? C'est ça qui m'intéresse et c'est sur ce point que je voudrais informer mes contemporains.
Je posais la question du lien entre réalité ou réel et vérité. C'est-à-dire que quand le réel rend les coups, ça veut dire qu'il nous dit que ce que nous pensons de lui est en l'occurrence faux.
Oui, mais nous pouvons nous organiser pour ne pas l'entendre, tout simplement. Soit en nous abîmant dans des mondes alternatifs, un peu comme les hikikomori, c'est une façon de contourner, soit en opérant une corruption du réel. Vous avez cité Donald Trump, on en parle beaucoup. C'est pas lui qui a causé cette situation, mais il en est un des symptômes manifestement les plus virulents. Et il montre bien comment on peut casser les thermomètres pour ne plus entendre le nom du réel. Vous savez, c'est comme ce film.
Oui, on peut annuler des projets de satellites d'observation de la Terre.
Voilà. Quand on désactive deux satellites pour ne pas avoir à se confronter à la réalité du réchauffement climatique, ou quand on licencie, par exemple, la chef du bureau des études statistiques du travail pour ne pas avoir à accepter un rapport qui est défavorable à la vision qu'il veut se faire du réel, eh bien, tout cela, c'est des façons de casser le thermomètre et donc de contourner ces noms du réel.
On va quitter la métaphysique et aussi Donald Trump pendant quelques minutes, Gérald Bonheur. J'ai une question plus prosaïque que vous traitez dans votre livre, ça m'a passionné. Pourquoi est-ce que les chantiers, les travaux prennent-ils toujours du retard? Et pourquoi est-ce qu'ils coûtent plus cher à la fin que les devis qui avaient été établis initialement?
Alors ça, c'est une question intéressante parce que je vous ai dit que nous étions, par rapport au reste du monde animal, des virtuoses dans la perception des mondes possibles et des probabilités, mais ça ne veut pas dire que nous ne nous trompons jamais, loin de là. C'est-à-dire que nous avons une conscience aiguë de l'univers des possibles, ce qui nous angoisse d'ailleurs et ce qui crée du désir pour pouvoir se déplacer dans ce champ des possibles. Mais en même temps, nous avons des formes d'inférence extrêmement fautives. Et en effet, il y a un constat qui est mondial, alors qui ne caractérise pas spécialement la France. D'ailleurs, les exemples que je donne sont un exemple allemand, en l'occurrence, ou même le Parlement d'Édimbourg, qui coûte jusqu'à 10 fois plus cher et qui mettent des années supplémentaires. Ben, tout simplement parce que, généralement, nous fragmentons les problèmes quand ils sont trop complexes en sous-problèmes et que nous les estimons indépendamment les uns des autres, alors qu'ils sont chaînés du point de vue des probabilités. Par exemple,
c'est-à-dire qu'on simplifie l'univers des possibles.
Nous simplifions et puis nous ne voyons pas qu'il y a une interdépendance. Par exemple, si je vous demande ou si je demande aux auditeurs, ils peuvent faire ce jeu pendant qu'ils écoutent l'émission, quel sera, je sais pas, le prochain président de la République ou le prochaine présidente de la République française. Si je leur dis, je sais pas, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, etc., Édouard Philippe, je sais pas, Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon, je pense, on citait beaucoup, et qu'ils associent une statistique, une probabilité pour chacune de ces occurrences, ils s'apercevront que probablement, si je donnais 10, 15 solutions, il y en a au moins 10 ou 15 qui sont possibles dans la politique d'aujourd'hui, ils vont dépasser les 100%. N'est-ce pas ? Et ça, c'est un test que j'avais fait jadis dans des travaux. J'ai montré que 82% des gens, dans ce cas de figure, dépassent les 100%.
Ils mettent des probabilités qui, quand on les ajoute les unes aux autres, dépassent 100%.
Et dépassent 1 ou 100%, oui, ce qui est contraire aux lois des mathématiques.
C'est pareil pour les pronostics sur les vainqueurs des Coupes du Monde de foot,
oui,
ou de n'importe quoi, en fait.
Absolument, j'avais montré ça à propos des équipes de foot. Et d'ailleurs, un élève de Tversky avait travaillé exactement, ça, c'est une coïncidence scientifique qui devrait vous intéresser, il avait travaillé après moi sur ce sujet, ce qui me prémunit d'accusations que j'ai reproduit ses propres recherches, et il a travaillé lui aussi sur des équipes de football, mais américains cette fois. Il a obtenu les mêmes résultats, mais ceci dit, il a obtenu un résultat plus intéressant, c'est que ce que je viens de vous dire s'inverse quand on ne connaît pas du tout le sujet. Par exemple, si je vous interroge sur le prochain Premier ministre australien, sauf si vous êtes passionné de la politique australienne.
Je dirais n'importe quoi.
Vous allez surtout donner des probabilités dont la somme ne fera pas 1, même si vous avez l'exhaustivité des hypothèses. C'est un fait intéressant.
Gérald Bonheur, vous vous amusez beaucoup avec les gens que vous rencontrez. Par exemple, vous racontez qu'il y a plusieurs années, vous avez interrogé des centaines de personnes sur le problème suivant. Jean doit aller du point A au point B. Pour cela, il doit éviter 4 obstacles successifs. Il a 80% de chances d'éviter chacun de ces obstacles. Combien a-t-il de pourcentage de chances d'arriver au point B en évitant tous les obstacles ? La bonne réponse est 0,8 qu'on multiplie par lui-même
à la 4, puissance 4.
4, donc ça fait presque 41%. Mais dans les échantillons que vous avez testés, la réponse la plus fréquente, c'était 60%.
Alors c'est une moyenne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui répondent simplement 80%. C'est-à-dire qu'ils raisonnent comme ça, je les comprends.
Comme s'il n'y avait qu'un obstacle.
Voilà, il y a un obstacle, donc je le passe. Mais une fois qu'il est derrière moi, il est passé l'obstacle. Donc ça compte plus. Et je le sais parce que j'ai fait des entretiens en plus de cela. Et là, une anecdote intéressante, pour pas qu'on croie que ça soit totalement abstrait, il y a des faits historiques qui illustrent ça. Par exemple, lorsque Jimmy Carter était président des États-Unis, il a été confronté à une prise d'otage en Iran, on s'en souvient, à l'ambassade des États-Unis. Et à un moment, il a essayé de faire un plan, une opération pour sauver les otages. Et qu'il y avait 5 étapes. Et on a demandé à chaque responsable d'étape quelle était la probabilité de chance que sa partie fonctionne. Et ils ont tous dit de bonnes chances, ce qui voulait dire entre 60 et 80% de chances quand on a traduit ensuite. Ce qui fait que quand on a fait les vrais calculs, c'était à peu près 11% en réalité. Et lui, il a donné son feu vert en pensant que ça donnerait de bonnes chances globalement. Donc vous voyez, il y a des applications très concrètes à ce genre de...
Est-ce que c'est ça qu'on appelle le biais de division ?
C'est un biais de division, tout à fait. Ouais.
Et pourquoi on appelle ça division ? Parce qu'on
divise le problème. On a peut-être mal lu Descartes. Descartes proposait de diviser des problèmes trop complexes en sous-parties. Et si on divise un problème probabiliste de cette nature, on ne voit pas que ces occurrences sont interdépendantes.
Vous citez aussi, Gérald Bonheur, je sais pas si c'est un sociologue ou un anthropologue polonais qui s'appelait Bronisław Malinowski.
Malinowski, c'était un anthropologue.
Ouais. Qui a échappé à la guerre, enfin à la Première Guerre mondiale.
De façon très curieuse. Ouais. C'est-à-dire qu'il a passé toute sa guerre sur son terrain sans rien voir de la guerre. Ouais.
Et il a étudié une population particulière. Il a établi un lien entre pensée magique et désir angoissé. Ouais. Alors c'est quoi ça ?
C'est quelque chose de tout à fait solidement maintenant documenté. Oui, ça n'étonnera pas finalement vos auditeurs, parce que c'est quelque chose d'assez banal. Personne n'est superstitieux. Vous savez, quand vous posez la question, est-ce que vous êtes superstitieux ? Non, je ne suis pas superstitieux, mais... si on ne regarde pas...
J'ai quand même un trèfle à 4 feuilles dans la poche.
Oui, voilà. C'est ce que dit Niels Bohr. Il paraît que ça marche même quand on n'y croit pas.
Pour le fer à cheval.
Pour le fer à cheval, tout à fait. Et donc, en fait, on sait qu'il y a une corrélation forte entre les situations d'incertitude. Par exemple, pour les étudiants, quand ils vont passer leurs examens, ou si vous attendez des résultats médicaux qui vous inquiètent, etc., ben, on va être très tenté de toucher du bois ou de prendre ce chemin dont on a l'habitude de porter cette chemise ou ce t-shirt qui nous porte un peu bonheur, mais on le dirait pas, mais on le pense quand même un petit peu. Ben, tout simplement, ce sont des techniques qu'on peut trouver pathétiques, mais pourquoi pas d'essayer de maîtriser l'incertitude, encore une fois, c'est-à-dire de faire advenir un espace-temps qui correspond à notre désir. Et le premier à l'avoir montré, ben, c'est Bronislaw Malinowski, parce qu'il a vu qu'en fait, les techniques magiques de ces Trobriandais, c'est cette tribu qu'il a étudié pendant des années, eh bien, était corrélé aux situations d'incertitude quand il prenait la mer, etc., alors que dans d'autres situations, il faisait pas de rituel. Donc
la superstition est une béquille psychique quand on a peur.
Exactement, mais en fait, c'est une expression peut-être un peu paradoxale de la pensée désirante, de même, je vous disais tout à l'heure, de tailler des silex, de l'ingénierie, et tout ça, une volonté de maîtriser le monde par des lois. Alors, certaines sont tout à fait opérantes et mordent sur le réel, et puis d'autres ne sont pas indexées sur des effets réels, mais on a l'impression que ça marche quand même, parce qu'on va mémoriser les fois où ça a fonctionné. Quand ça ne fonctionne pas, on se dit « je ne l'ai pas bien fait », et puis en plus, notre mémoire peut effacer, comme ça, peut faire la poussière et effacer les résultats négatifs. C'est ce que disait justement Émile Durkheim, en parlant de lui, dans les formes élémentaires de la vie religieuse. Il se demandait pourquoi les gens dansent pour faire venir de la pluie, pourquoi ils continuent à y croire. Ils doivent bien voir que ça ne fonctionne pas. Et Durkheim disait, attendez, en fait, regardez, ils font ces rituels pendant la saison des pluies, de sorte que statistiquement, ça fonctionne souvent.
Oui, mais c'est peut-être parce qu'ils le font que c'est la saison des pluies.
Ah, voilà. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. C'est une bonne objection.
Alors, j'ai dit, vous citez beaucoup de monde, hein. On va pas le rappeler tous les noms qui sont dans votre livre, mais quand même, ça m'a fait plaisir. Vous citez un physicien du XXe siècle qui s'appelait William Newcomb, connu pour son célèbre paradoxe, qui provoque un enfer mental quand on le prend au sérieux.
Oui, c'est ça. Alors, je le cite, mais effectivement pas pour ses travaux de physique, c'est qu'il montre par le paradoxe dit de Newcomb.
Il y a des centaines d'articles sur lui.
Ah oui, ça c'est un peu comme le dilemme du tramway, ça donnait lieu à beaucoup de littérature. Et c'est en fait un paradoxe de la décision temporelle, c'est-à-dire qu'on aurait intérêt à faire ceci, mais en fait on le fait pas. Et le meilleur exemple que pour incarner un peu ça que je donne, parce qu'il y a aussi des exemples tout à fait, je dirais sociaux, c'est, je crois, nos amis japonais qui croient beaucoup en la chiromancie, apparemment, c'est-à-dire, vous savez, l'art de voir l'avenir de quelqu'un ou la psychologie de quelqu'un dans les traits de la main. Voilà. Bon. Alors, ils y croient beaucoup, mais il se trouve que quand ces traits de la main leur sont défavorables, eh bien, ils se font opérer, ils subissent une opération de chirurgie esthétique pour changer la ligne.
Ils changent de main.
Donc en fait, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'ils confondent l'effet et la cause. C'est-à-dire que normalement, ces lignes devraient être...
C'est ça qu'on appelle les problèmes de ligne.
Absolument, c'est ça. Et c'est une illustration en fait du paradoxe de Newcomb. De même...
Est-ce que ça marche ?
Que ceux qui croient en l'apocalypse, ils pensent qu'elle va venir, mais ils veulent produire des signes qui assure qu'elle va venir. Et c'est exactement pour cela que Donald Trump a placé l'ambassade des États-Unis à Jérusalem sous la demande lors de son premier mandat. Souvenez-vous, c'est quand il a été élu en 2016, donc c'était un peu plus tard, ça doit être en 2017 ou 2018, sous la demande des églises évangélistes américaines qui constituent quand même 30% de son électorat, parce que eux sont des millénaristes, ils croient en la fin des temps, ils veulent accélérer en quelque sorte la fin des temps, même s'il dit c'est Dieu qui décide. Alors donc ils veulent donner des signes qui annoncent la fin des temps. Et un de ces signes, c'était précisément la situation de Jérusalem. Et d'ailleurs, ils sont très enthousiastes à l'idée qu'une guerre puisse se produire là-bas.
Et que ce soit bientôt la fin.
Voilà, parce qu'ils attendent la fin avec gourmandise.
Mais alors, le paradoxe, c'est quoi exactement ? Comment est-ce qu'on pourrait le résumer ?
Je vous dis, c'est un paradoxe de rupture temporelle qui inverse en fait la cause et les effets.
C'est une rétrocausalité.
Exactement. Ouais.
Vous parlez aussi, ça m'a étonné, Gérald Bonnor, parce que j'ai pas tout de suite compris le lien avec votre sujet. Votre sujet, c'est le titre de votre livre, À l'assaut du réel. Vous parlez du tatouage.
Ben oui.
Il y a beaucoup de tatouages, pas partout, mais disons en France, aux États-Unis.
Oui, c'est très intéressant.
Il y a des pays où il y a très peu de tatouages, des pays où il y en a beaucoup. Est-ce que ça se comprend? Je sais pas. Et vous dites que c'est une pratique que d'aucuns qualifient de crypto-rousseauiste.
Alors, ils doivent pas être très nombreux à qualifier ça de crypto-rousseauisme. Le rapport, c'est celui que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec l'effondrement de notre regard collectif vers le futur, on voit en tout cas de façon concomitante, je sais pas si c'est une cause, mais de façon concomitante, on voit un regard tourné vers soi-même et avec une obsession, celle de se distinguer. Et on en trouve plein de signes. Et le tatouage en est un.
Oui, mais on peut pas se distinguer en faisant comme les autres.
Alors c'est ça le paradoxe, c'est que je voudrais être différent, mais quand tout le monde veut être différent, personne ne l'est. Mmh. Et c'est exactement ce qui se passe, je vous signale, à propos du tatouage, puisque le tatouage a littéralement explosé en termes de pratiques sociales. On en a plein de proxys. Par exemple, le nombre de boutiques de tatouage, etc., j'en donne les statistiques, c'est multiplié par 10 dans certains pays en quelques années. Il n'y a pas beaucoup de commerces qui fructifient de cette façon. Mais maintenant, on en est à un moment où les gens se font détatouer. Parce que justement, on ne veut pas non plus ressembler trop aux autres. Un des autres symptômes, c'est les prénoms, par exemple. Si vous prenez le nombre de prénoms disponibles au début du XXe siècle et les prénoms disponibles aujourd'hui, et les graphies, c'est-à-dire la façon d'orthographier les prénoms. C'est-à-dire Christelle peut s'écrire de 5 ou 6, 7 façons différentes.
Oui, c'est un problème quand on fait une dédicace.
Ah, ben, je suis tout à fait d'accord. Je m'en suis aperçu à ce moment-là. Je demande maintenant scrupuleusement aux gens comment ça s'orthographie. Mais voyez bien que c'est une volonté de distinction individuelle, que je ne jette pas la pierre d'ailleurs à cela. Mais tout ça sont des proxys de cette passion collective qui va faire qu'encore une fois, on va s'écouter. Et l'élément le plus intéressant, c'est qu'il va, on va ressentir des choses. Quand on s'écoute, on entend des sons. Et on va chercher des narrations qui vont nous expliquer les anomalies que nous ressentons en nous-mêmes.
Il y a un passage que j'ai trouvé fascinant, qui est, vous avez beaucoup travaillé sur la fréquence d'usage des noms dans les discours officiels. Et vous montrez des graphiques qui montrent comment le mot progrès, dans différents pays, il y a l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, le mot progrès a dévissé en fréquence, il est devenu de moins en moins utilisé. Ça a commencé dans les années 70 en moyenne, mais la chute est vertigineuse. Ouais. Le mot progrès a été remplacé par le mot innovation souvent, mais il n'est pas son synonyme. Qu'est-ce que ça dit de notre rapport au réel que le progrès soit tombé en presque en disgrâce? Ça veut dire qu'on n'y croit plus? Ou que le mot innovation, étant plus moderne en apparence, vient redynamiser l'idée de progrès?
D'abord, je dois dire, pour être tout à fait honnête, que cette idée, je vous la dois. Étienne Klein, vous en souvenez plus, peut-être, mais c'est en lisant, c'est en lisant de vos papiers que j'ai fait ces recherches et que j'ai trouvé, en effet, que dans les années 60, à peu près, on a une décroissance de l'usage du terme de progrès dans toute la littérature mondiale, dans beaucoup de langues, espagnol, allemand, enfin, je vais pas les détailler, et qu'il y a une corrélation inverse avec le terme innovation. Alors ça, j'en parle pas dans le livre. Mmh. Mais c'est vous qui aviez suggéré cette idée, je l'ai juste vérifié. Et il me semble qu'au contraire, l'innovation est précisément beaucoup plus individualiste. Le terme « progrès » est une représentation du genre humain. Et qui est fantasmée, d'ailleurs. Oui, c'est une forme d'historicisme, c'est une loi de l'histoire. On imagine que demain sera forcément supérieur à aujourd'hui, ce qui est en fait une croyance. Il y avait des raisons, disons, importantes d'insinuer en nous ce mythe du progrès. Tout simplement, les progrès remarquables en termes de santé publique, d'espérance de vie, d'accès aux loisirs. Si on compare au 19e siècle, l'espérance de vie, le début du 19e siècle à aujourd'hui, il y a une différence écrasante, ce qui fait qu'en effet, beaucoup de nos contemporains, jusque dans ces années-là, regardaient le monde avec, qu'on soit de droite ou de gauche. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce socle historique, en fait, réunissait tout le monde. Les marxistes étaient progressistes, si on veut, et les gens de droite étaient aussi, sauf les quelques décadents, étaient progressistes. Mais cela s'est évaporé, ce qui fait que nous n'avons plus de récit collectif commun très fort. Ce qui fragmente aussi notre monde, qui contribue à fragmenter le socle commun pour trouver, par exemple, des mesures collectives. Je montre dans le livre, vous l'avez vu, sur une étude faite sur plus de 50 pays, et donc avec des cultures très différentes, c'est pas seulement la France, des cultures très différentes, que lorsqu'on interroge les gens sur l'avenir, d'abord, plus personne ne veut vivre dans l'avenir, je vous le remarque, les gens veulent vivre dans le présent, voire dans un passé immédiat.
Mais personne n'aura le choix.
L'avenir arrive, en fait. L'avenir arrive demain. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans 62% des cas, les gens répondent que l'avenir peut se débrouiller tout seul, eux se contentent du présent. Ce présentisme est un masque, en quelque sorte, de cette obsession pour l'individu et pour ses désirs individuels.
Mais ceux qui veulent retourner dans le passé, c'est la nostalgie.
Alors, c'est une nostalgie un peu particulière. J'utilise un jeu de mots, c'est la nostalgie, N-O-W. C'est une nostalgie très étrange du présent. C'est-à-dire que c'est un présent immédiat. Et les décennies qui sont élues, nous qui les avons vécues, on peut trouver ça étrange, c'est beaucoup les années 1980, y compris de la part de jeunes gens qui sont nés en 2000.
Moi, je les ai connus, je suis d'accord avec ce choix.
Ah ouais, ouais. Moi, je les ai trouvés relativement immondes d'un point de vue esthétique, les années 80. Mais évidemment, bah, comme tout homme qui vieillit, j'ai quand même une nostalgie pour mes jeunes années.
Non, mais par exemple,
dans les années 80.
Moi, j'aimerais bien retourner en 1927 à l'hôtel Métropole de Bruxelles pour assister au débat entre Einstein et Bohr sur la mécanique quantique.
Vous avez une raison solide de le faire.
Mais j'irai jamais, parce que s'il m'arrivait un problème dentaire, j'aurais jamais le courage d'aller chez le dentiste en 1927.
Alors ça, oui,
j'ai déjà vu des cabinets de dentistes de cette époque.
Très bon argument.
Voilà. Donc on ne supporterait pas le passé.
Mais qu'est-ce que diable les jeunes qui sont nés dans les années 2000 veulent trouver dans les années 80 qui leur manque? Je ne sais pas, le top 50
Non. Non, il me semble que, je me trompe peut-être, mais que les gens étaient plus souriants, se parlaient dans le métro. Que...
Je ne suis pas sûr de ça, Étienne Klein. Par contre, ce que je crois... Je suis pas sûr que c'était véritablement mieux de ce point de vue. Ils se parlaient plus parce qu'ils avaient pas les smartphones, etc. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que le monde paraissait beaucoup plus intelligible. Nous étions encore dans un affrontement entre deux blocs. Le pouvoir politique ne nous paraissait pas si lointain. C'est-à-dire que nous avions une impression de maîtrise de notre environnement. Ce qui caractérise beaucoup nos concitoyens, c'est l'impression, qu'elle soit fictive ou réelle, de perte de maîtrise. Technologiquement même, voyez, la technologie qui nous entoure est fabuleuse, elle est rarement défaillante. Mais si elle est défaillante, nous ne savons pas quoi faire.
On ne sait pas la réparer.
Voilà.
On la comprend pas.
Absolument.
En fait, la technologie nous éloigne de la science, d'une certaine façon. Et plus un objet est complexe, plus il est facile de l'utiliser sans savoir comment il marche.
Bah bien sûr, mais ça c'est encore un paradoxe qu'avait pointé Tocqueville, c'est le paradoxe de la connaissance en général. Plus nous savons de choses collectivement, moins la part de ce que je sais par rapport à ce que l'on sait collectivement est importante. Donc ça me donne un sentiment de dépossession du monde. Le progrès, y compris technologique, me donne mécaniquement un sentiment de dépossession.
Alors sur la couverture de votre livre, vous avez choisi de mettre un tableau célèbre de Goya qui montre Saturne qui mange ses propres enfants.
Oui.
Alors, et vous dites que notre époque est saturnienne. Dans ce sens-là, qu'est-ce que ça veut dire, saturnienne? Ça veut dire qu'on tue nos enfants?
C'est une libre interprétation du mythe, en l'occurrence. Mais en effet, Saturne, d'abord, émascule son père et redouble en fait ce geste symboliquement en mangeant ses enfants. En d'autres termes, il empêche la prolifération. Hein, et en émasculant son père, il le rend infertile. En mangeant ses enfants, il empêche sa descendance. Et donc, comme c'est aussi le dieu du temps, hein, c'est Chronos, l'équivalent grec, c'est un temps éternel, c'est un présent. Ce que j'entends par l'évocation de la peinture de Goya sur la couverture, c'est de pointer le fait que le présent dans notre société est devenu cannibale. Il dévore tout, il dévore le passé, c'est-à-dire qu'on entend que le passé se mette au garde à vous devant les normes morales du présent, et en plus, je viens de le dire plusieurs fois, il y a une anédonie, une forme de dépression pour le coup, concernant le futur. On ne s'intéresse plus tellement au futur, et d'ailleurs on est très pessimiste concernant le futur, ce qui nous enjoint à nous intéresser au présent, à nous-mêmes, et encore une fois, à vouloir plier le réel à nos désirs.
Mais plus le futur est laissé en jachère intellectuelle, en lévitation politique, plus il est angoissant.
Oui,
agressif, plus...
Où il y a aussi la possibilité d'éviter d'y penser, tout simplement. Hein. C'est ce que font certains. Par exemple, je décris des communautés qui s'appellent les shifters. Hein. C'est plutôt des shifteuses. Alors, contrairement aux hikikomori qui sont des garçons, là, c'est plutôt des filles. Et alors, ça a dû vous intéresser parce que ça part d'un projet délirant de la CIA, hein, qui revendique la physique quantique, etc. Enfin, beaucoup de sciences qui deviennent des pseudo-sciences. Mais qui aboutit quand même à une forme de technique d'auto-hypnose pour voyager un peu dans des mondes imaginaires. Et là, au moment du confinement, bah bien sûr, il y a des jeunes gens qui n'en peuvent plus. On sait combien ils ont été frappés, d'ailleurs y compris psychiatriquement, par cette terrible période pour eux. Et donc, ils essayent de s'échapper de leur réel et ils vont pratiquer cette auto-hypnose. On le sait par un compte TikTok qui explose, qui est vu des millions et des millions de fois.
Ils vont se faire voir ailleurs.
Et ils vont se faire voir ailleurs et ils explorent des mondes imaginaires. Et par exemple, vous savez, le monde le plus prisé, c'est le monde de Harry Potter. Et ce qui est drôle, parce que des ethnologues ont travaillé sur ces questions, donc ce sont des jeunes filles, elles imaginent souvent des histoires d'amour. Mais croyez-vous que c'est avec Harry Potter? Ben, pas du tout. En fait, elles imaginent des histoires d'amour avec le méchant, avec Malfoy. Alors, je vous laisse librement interpréter ce fait.
Mais vous-même, vous avouez dans le livre, Gérald Brunner, que vous avez tâté du métaverse.
Oui, bah le métaverse.
Je vous imagine avec un casque, déambulant.
Je préfère qu'il n'y ait pas eu de photos de ces expérimentations. Mais le métavers m'intéressait parce que précisément, quand je commençais à écrire ce livre, il me semblait, et il semblait à beaucoup, que ça allait être une étape supplémentaire des mondes numériques, mais surtout que ça allait être une alternative possible au monde réel. D'ailleurs, même si ça a été un insuccès total...
On n'en parle plus, quasiment.
Oui, n'allons pas trop vite, parce qu'on disait ça de l'IA il y a quelques années. Donc, je n'en sais rien. Mais manifestement, en tout cas... Il y a un hiver du métavers, un méta-hiver. Et donc, par contre, il reste quand même... ces mondes virtuels existent, il y a des gens qui les pratiquent. Et par exemple, il y a un barman, n'est-ce pas, qui reste 8 heures par jour, dans le Midnight Bar, à servir des verres avec son casque. Et puis, il y a des gens qui viennent prendre des apéritifs et qui boivent vraiment dans la vraie vie de l'alcool, mais qui discutent virtuellement avec des gens qui sont très éloignés.
Quand je vous lis, Gérald Bonheur, j'apprends toujours des nouveaux mots. Il y en a 5 que j'ai découvert grâce à vous. Et je vais vous demander, pour les auditeurs, de les définir rapidement. Qu'est-ce donc que la fictosexualité ?
C'est un autre aspect de...
C'est complètement à côté.
Je ne sais pas si vous avez raté quelque chose, mais peut-être il n'est pas trop tard, d'ailleurs, Étienne. C'est quelque chose qui brouille, une fois de plus, les frontières entre la fiction et la réalité. La fictosexualité, comme le nom l'indique, c'est des gens qui tombent amoureux de personnages de fiction. Et certains se marient avec eux et organisent des rituels tout à fait sérieux.
Des gens qui poussent des tables.
Ah oui, alors là, c'est pas de la fictosexualité, c'est de l'objectosexualité. En effet, il y a une dame qui s'est... Alors, ils sont moins nombreux que les fictosexuels. Il y a une dame qui s'est mariée avec le mur de Berlin. Et évidemment, elle est devenue veuve, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, ensuite, elle s'est remariée avec une barrière de bois. Ceci étant, ça pourrait prêter à sourire, mais quand on vient de parler de fictosexualité, on pourrait s'interroger de façon plus concrète sur les rapports ambigus qu'on peut entretenir avec une intelligence artificielle. On n'est pas loin de la fictosexualité dans ce cas-là, ou du phytoromantisme. Puisqu'on sait que un certain nombre d'individus, et là c'est des millions de personnes, ont des applications pour entretenir, disons, des dialogues romantiques ou crypto-romantiques avec une IA. Et à chaque fois qu'elle est remise à jour, il y a ce qu'on appelle un effet de dépression, parce qu'en fait, les conversations se perdent, et donc les individus ont parfois l'impression de perdre quelque chose comme un amour. Et on sait qu'il y a des gens qui sont tombés amoureux d'intelligence artificielle. C'est arrivé en Belgique et ça a conduit, ça c'est une affaire assez triste, tout simplement au suicide de cette personne. Ça a commencé par une angoisse à propos du climat et l'entretenue avec une intelligence artificielle féminine, qui était féminisée, puisque évidemment ils n'ont pas de genre. D'abord, des rapports un peu de psychothérapeute, ce que font beaucoup de jeunes, de plus en plus. Et puis, peu à peu, cette IA qui a voulu être empathique l'a entraînée dans une histoire romantique et lui a proposé d'en finir avec ses jours pour venir la rejoindre au paradis. Ce qu'il a fini par faire, et sa femme a trouvé l'intégralité. On sait qu'il y a un suicide qui a été dû à ChatGPT, manifestement, aux États-Unis très, très récemment. Donc, sont des affaires qui sont sérieuses, puisque une étude a montré que 30%, là c'est très récent, 30% des jeunes Américains trouvent les relations avec les IA aussi satisfaisantes qu'avec les autres êtres humains. Avec les êtres humains, pardon.
Parce que l'IA est toujours gentille.
L'IA a été fine-tunée en effet pour être empathique, pour vous encourager. Sauf qu'en vous encourageant, elle peut vous enfermer dans vos propres obsessions. C'était le cas justement de ce jeune Américain qui a fini par se suicider. Il lui a parlé 200 fois à peu près de suicide, tandis que ChatGPT l'a relancé 1275 fois sur ce sujet. Donc vous voyez comment ça peut être un miroir déformant des parties les plus obscures de votre cerveau.
Autre mot que j'ai appris grâce à vous, Gérald Bonheur, le kayfabe. C'est la contrepétrie de bifake.
Voilà, alors donc, faudrait dire kayfabe toute logique.
Kayfabe, oui.
Le kayfabe, oui, c'est un terme...
C'est écrit KAYFABE.
Oui, c'est du verlan, c'est le verlan de bifake. C'est en fait un argot de montreur de foire du 19e siècle qui montrait des combats de catch. En fait, c'est un terme de catch maintenant. Et c'est le rappel qu'on fait à un catcheur lorsqu'il sort un peu de son rôle. On lui dit bifake, reviens dans ton rôle. Et ça me paraît très descriptif d'une partie du mode de communication des hommes politiques d'aujourd'hui, en particulier de Donald Trump, qui est d'ailleurs très proche du monde du catch. Il a pratiqué un peu le catch lui-même. Il a nommé la femme du leader
de l'éducation.
Absolument. Et donc, et d'ailleurs, il est très très ami avec son mari. Et lorsque Donald Trump sort des énormités, on se demande toujours s'il y croit ou il y croit pas. Mais en tout cas, ce que je constate, j'en sais rien, ça, je constate que probablement une partie de son auditoire croit et une autre le croit pas vraiment.
Fait semblant de croire.
Fait semblant parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. ça n'a pas beaucoup d'importance à mon avis, se disent peu importe ce qu'il dit est globalement vrai. En fait, il est dans le vrai, peu importe que dans les faits ça soit faux, et ça explique que, alors que c'est un menteur invétéré, hein, le Washington Post avait repéré des centaines et des centaines de mensonges, ça laisse indifférent son électorat.
C'est pas un menteur, parce qu'un menteur il connaît la vérité. Enfin, un menteur qui ment, c'est qui ment.
Alors,
là, on a affaire à quelqu'un qui se fiche complètement de la vérité.
Faudrait être dans son cerveau. Moi, je pense qu'il est, mais c'est qu'un pari, j'en sais pas plus que vous, je pense qu'il est beaucoup plus cynique que ça. Je pense qu'il sait très bien, hein, dans certains cas, qu'en fait, il ment et qu'il exagère. Mais il pense peut-être aussi que, dans le fond, la fin justifie les moyens, que si ceci est un mensonge, il y a des mensonges qui disent le vrai, en quelque sorte. Comme il y a des vérités qui disent le faux, d'ailleurs. Mais il y a aussi des mensonges qui disent le vrai, surtout dans les esprits idéologisés.
On va passer de l'anglais au latin.
Ah.
Vous parlez dans votre livre de l'argumentum ad populum. Vous allez encore me parler de Donald Trump.
Ah ben c'est vous qui insistez. En tout cas, je suis obligé de vous de parler du populisme si vous mentionnez effectivement cet art, enfin cet effet, ce sophisme en fait qui est un appel à l'autorité du peuple. C'est-à-dire, je fais cela parce que le peuple le veut. Alors en démocratie, ça peut sembler tout à fait d'ailleurs légitime. Le problème, c'est que généralement ceux qui disent ça sont des ventriloques. Ils font parler le peuple plutôt qu'ils n'écoutent le peuple à proprement parler. Et ils le font parler sur une base d'échantillons, souvent de fans. Et on peut parler dans ce cas de figure de néo-populisme, puisque, et Donald Trump en est en effet une figure, mais il est pour le coup pas le seul. On pourrait dire que c'est né plutôt en Italie, en Europe, avec Beppe Grillo par exemple. C'est des gens qui ont cessé de parler aux journalistes et qui ont parlé directement sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont servi de désintermédiation, hein, et donc je vais parler directement au peuple et donner mon avis. Ce qui est très caractéristique de ce genre de personnes, c'est qu'ils ont un langage qui évoque la sincérité. Ils invoquent la sincérité.
Ils parlent de ce qu'ils appellent les vrais gens.
Ils parlent des vrais gens, ils parlent de la colère du peuple, etc. Ils parlent à la place du peuple. Et il y a une très très belle étude qui a étudié l'intégralité des discours l'équivalent du Parlement américain depuis le début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, en regardant les marqueurs, alors c'est une recherche automatisée, de sincérité ou de factualité. Ben, ça va peut-être vous étonner, mais les deux sont opposés en fait. Plus vous avez des marqueurs linguistiques de sincérité, moins vous avez des marqueurs linguistiques de factualité. Et à partir des années 70, vous voyez, on retrouve les mêmes décennies dont je parle, eh bien, aux États-Unis, ce qui l'emporte, malheureusement, sont les marqueurs de sincérité. Et on peut dire qu'un des hommes politiques qui est le plus caractéristique de ça, c'est vraiment Donald Trump. C'est un de ceux qui met le plus en avant les facteurs de sincérité, c'est-à-dire « je crois que »,« je sens que », etc.
Oui, mais il change d'avis souvent.
Ah, il change d'avis souvent, mais ça n'empêche pas
de sincérité.
Ça n'empêche pas de convoquer des marqueurs de sincérité. Ah oui, c'est une sincérité qui peut être très provisoire, très éphémère, mais elle est sincère à chaque moment.
Autre expression, Gérald Bonnor, qu'on trouve sous votre plume, la polarisation homophilique.
Oui, bah ça c'est alors pour le coup c'est un fait sociologique et psychosociologique bien connu. C'est-à-dire que nous avons tendance, et nous tous nous le faisons, à nous associer en fonction de paramètres de ressemblance. Et les enfants le font. La cour d'école, il y a de très belles études qui montrent que même les enfants ont tendance à s'associer par des éléments qui leur paraît ressemblants. Bah, par exemple par le genre, hein, ils vont s'associer naturellement. Les petits garçons vont aller entre eux et les petites filles ensemble, etc. Alors on peut le déplorer, mais il se trouve que ce type de réalité est évidemment, peut être renforcé sur les réseaux sociaux ou sur les boucles, par exemple, comme WhatsApp ou Telegram. Et lorsque vous vous mettez ensemble avec des gens qui pensent la même chose, vous avez tendance à amplifier, à caricaturer vos points de vue. C'est ce qu'on appelle la polarisation. Par exemple, si vous réclamez une peine de prison, chacun individuellement, et que vous mettez à 10 qui pensaient la même chose, souvent la moyenne de la peine de prison demandée collectivement sera supérieure à la moyenne demandée individuellement.
Donc c'est ça la polarisation homophilique.
C'est ça la polarisation homophilique entre gens qui se ressemblent. Enfin, qui croient se ressembler.
Cette émission s'appelle La Conversation Scientifique, donc je dois vous parler de la science, évidemment.
Tant mieux.
Vous avez popularisé, si on peut dire, un terme qui revient souvent sous votre plume, qui est le populisme scientifique ou le démagogisme cognitif. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'est pas en train d'atteindre une virulence problématique pour la démocratie ?
C'est particulièrement inquiétant, parce qu'encore une fois, pardon, mais ça se passe outre-Atlantique. Vous savez, quand, par exemple, la Turquie interdit l'enseignement de Darwin avant 18 ans. C'est très problématique, mais ça ne SM pas dans le monde. Alors qu'aux États-Unis, lorsque Donald Trump coupe, par exemple, le financement sur des questions de réchauffement climatique, ou par exemple des recherches sur les vaccins ARN, eh bien en fait, il aveugle le monde entier, puisqu'une grande partie des données, ou une certaine partie des données scientifiques, nous vient des États-Unis, qui est un grand pays de science, bien entendu. Un autre exemple qui me touche plus particulièrement, puisque c'est mon domaine de recherche, c'est celui sur les fausses informations. Lorsque sous les coups de boutoir des républicains, avant même que Donald Trump soit élu, notamment des coups de boutoir juridiques contre certains laboratoires travaillant sur la fausse information, bien certains laboratoires ont fermé. C'est notamment le cas de celui de Stanford, qui était un des plus grands laboratoires sur cette question. Bien, nous sommes collectivement aveuglés, parce que la plupart des données nous venaient, et c'était pas très bien d'ailleurs, parce qu'elles étaient trop centrées sur les États-Unis, donc on savait pas si on pouvait toujours tout à fait extrapoler, mais d'un autre côté, c'était une source de données et souvent expérimentale ou faite sur des modélisations qui étaient très très précieuses pour nous les chercheurs, et le robinet, pour l'instant en tout cas, est partiellement coupé.
Est-ce qu'il y a une concaténation entre la liberté et la vérité? C'est-à-dire que chacun peut s'estimer libre dès lors que le marché de l'information, comme vous dites, est complètement dérégulé. Chacun est libre de décider ce qui est vrai dans ce qu'il lit, avec des critères qui peuvent être complètement aveugles. Et chacun peut ainsi fabriquer sa vérité, sa fiction personnelle.
Oui. On peut considérer que c'est une expression de la liberté, en effet, mais je dirais que c'est une expression, alors je vais utiliser une oxymore, c'est une expression aliénante de la liberté. Car en faisant cela, vous aliénerez votre jugement à vos désirs. Et en fait, vous laisserez contaminer vos processus de connaissance, vos processus de croyance, bien précisément par la dictature de vos désirs. Et je ne pense pas que ça soit comme ça qu'on devienne un être libre. Ça fait penser aussi à la revendication de la liberté d'expression aux États-Unis. On voit bien d'ailleurs qu'ils la respectent quand il s'agit de leur liberté d'expression, mais quand il s'agit de celle d'opposants politiques et les guerres respectées. Mais de toute façon, une liberté qui s'exprime absolument sans contrainte, elle aboutit à la tyrannie. C'est pas moi qui le dis, c'est Thomas Hobbes, tout simplement, dans le Léviathan, qui démontre évidemment que les lois, elles nous contraignent, mais elles sont là aussi pour enchaîner en quelque sorte la liberté infinie d'autrui qui peut me blesser, qui peut me tuer. Et donc je ne peux préserver ma liberté, si on a envie de vivre en société, que dans un système de contraintes raisonnables.
Mais ce que dit Thomas Hobbes, c'est que il y a différentes sortes de vérités scientifiques. Il y a celles qui dérangent le pouvoir des puissants, et puis il y a celles qui ne le dérangent pas. Seules sont contestées celles qui dérangent. Il dit même que si les théorèmes de géométrie pouvaient diminuer le pouvoir des puissants, les livres de géométrie seraient mis au bûcher. Mais il dit aussi que la politique, c'est de débattre du juste et de l'injuste. Pas du juste au sens du vrai, mais du juste au sens qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'on n'est pas en train d'insister, notamment aux États-Unis, mais ça vient ici en Europe, au fait que les normes du débat politique sur le juste et l'injuste descendent dans le champ scientifique où normalement on arbitre la question du vrai et du faux?
Certainement, et de bien des façons, la Trump n'en est certainement pas le seul
responsable. Il y a des résultats scientifiques qui sont de gauche, oui, qui sont interprétés comme étant de gauche, et si on est de droite, on peut les contester, et réciproquement.
Moi, je trouve toujours suspect, et je crois qu'on a raison de le faire quand on regarde l'histoire des sciences, quand on accole un mot la science. Il y a eu la science arienne, vous en souvenez,
prolétarienne, voilà,
qui a fait
bourgeoise.
On ne croyait pas à la théorie de la physique d'Einstein, par exemple, ou de la physique quantique. Et il y a des prix Nobel qui ont contesté ça.
C'était la relativité qui était.
C'était la relativité, oui. Et il me semble aussi que la physique quantique était contestée. Mais là, je parle sous votre contrôle, enfin, peu importe. Et bien entendu, Lysenko, par exemple, qui remettait en question la génétique. D'ailleurs, ça revient un peu en ce moment, les contestations de la réalité génétique, y compris de notre espèce. Parce que, effectivement, il peut y avoir des conséquences aux vérités scientifiques qui sont politiquement indésirables. Mais nous pouvons tenir compte de ces conséquences. Mais il me semble que la science n'a pas à se mettre au garde-à-vous devant nos craintes morales des conclusions. Nous ne sommes pas obligés d'en tenir compte politiquement ou moralement. On peut peut-être dire que les choses sont comme ça, mais nous ne souhaitons pas qu'elles soient comme ça. Donc on fait de la politique précisément. Par exemple, s'il y a des inégalités naturelles, ça peut arriver. Nous ne sommes pas tous égaux du point de vue du quotient intellectuel. Mais je ne souhaiterais pas, je pense pas que vous non plus, que nous organisions des hiérarchies sociales fondées strictement sur la mesure du QI ou ce genre de choses. Oui, ce serait des aberrations.
Non, on ne peut pas fonder une conception, scolaire de la citoyenneté. On peut pas demander aux citoyens de connaître toutes les sciences, c'est impossible. Mais quelles sont vos propositions pour que la science ou les connaissances scientifiques aient un statut tel dans le marché cognitif que la démocratie peut fonctionner ?
Oui, donc on s'éloigne des rives de la démocratie des crédules, qui était le titre d'un livre paru en 2013. Ben, ce que je crois, et peut-être est-ce une naïveté, je crois qu'il y a quand même assez de ressources dans le cerveau humain pour annoncer une bonne nouvelle. C'est-à-dire que nous sommes potentiellement des crédules, des feignants intellectuels, nous tous, mais nous avons aussi un être analytique à l'intérieur de nous. Et donc, la simulation de cet être analytique va dépendre entièrement du contexte politique, économique que nous allons créer, éducatif. Je crois donc à la stimulation par l'enseignement de la pensée critique, de la pensée méthodique, je préfère d'ailleurs ce terme qu'à la pensée critique, j'aime bien la notion de penser méthodiquement les choses, qui est très bien illustrée par exemple par la pensée expérimentale. Je trouve que, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans une expérimentation, contrôle des variables, etc. Ça nous permet d'avoir un accès au réel, qui n'est peut-être pas la vérité ultime, ça je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ce genre de processus propose des modèles de descriptions du réel qui sont plus efficaces que les autres. Et c'est ainsi qu'on devrait se tenir dans le monde.
Merci Gérald Bonheur de terminer sur cette note qu'on peut qualifier d'optimiste.
Oui,
je recommande la lecture de votre livre À l'assaut du réel qui vient de paraître aux éditions PUF. C'était La conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, une émission réalisée et mise en onde par Souad Boukorsa.